Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin le directeur délégué du département Opinion de l'IFOP. Il publie L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil. Question-réaction, amis auditeurs, dans une grosse dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Ce livre va susciter, j'en suis certain, un débat intense, j'espère intéressant. Le quotidien La Croix l'amorce ce matin d'ailleurs. On va le poursuivre ensemble jusqu'à 8h45. L'archipel français est une étude massive qui convoque les outils des sciences sociales, sociologie, géographie, démographie, sciences politiques, j'en passe sans doute. Vous faites l'inventaire, au fond, de toutes les forces centrifuges qui travaillent la France avec des processus qui font que le pays n'est plus un, mais qu'il se fragmente et peut-être même qu'il se disloque. Ce que nous avons en commun est de plus en plus ténu. Cette image de l'archipel, pour commencer, dites-nous comment elle s'est imposée à vous.
Eh bien, c'est au terme du travail que j'ai mené, hein, donc c'est un travail de longue haleine, puisque ça fait maintenant 20 ans que je occupe des fonctions dans des instituts de sondage et je travaille aussi sur de l'analyse électorale, l'analyse sociologique, et donc le constat qui m'est apparu, voilà, c'est celui d'une France qui était quand même très fortement morcelée. Il y a eu certains épisodes clés, hein, on peut citer la période des attentats de 2015, plus récemment le phénomène des gilets jaunes aussi, qui montre des fractures sociologiques, culturelles, territoriales, hein, et donc c'est cette image-là, puisque j'ai un petit tropisme de géographe, qui m'est venu à l'esprit, cette idée d'un archipel. Alors, comme son nom l'indique, un archipel, c'est un groupe d'îles. Il y a encore une matrice commune, il y a des relations entre les unes et les autres, mais le schéma qui prévaut est quand même celui qui est d'une séparation.
Quelles sont précisément les différentes îles qui composent aujourd'hui la France ?
Alors, il y a sans doute moins d'îles dans l'archipel français que en Indonésie, hein, où on compte 17 000 îles. C'est pas forcément évident de faire un inventaire. Et ce qui nous est apparu également, c'est le fait que les lignes de clivage ou de fragmentation ne se superposaient pas forcément toutes.
Non mais ayez confiance en votre image, donc voilà. L'archipel c'est des îles, dites-nous s'il n'est pas question de toutes les nommer, au moins quelques hauts lieux.
Alors on va en citer quelques-unes, on peut parler d'une vaste île populaire, hein, qui peut se traduire, qui peut s'illustrer par exemple dans un certain nombre de territoires par un vote Front National massif et qui a rejailli également sous nos yeux avec le phénomène des gilets jaunes, on en parlait tout à l'heure. Je développe aussi dans un chapitre toute une analyse sur un phénomène de sécession des élites, hein, avec un regroupement, une autonomisation de ces catégories-là dans le grand centre urbain, donc la métropole parisienne par exemple, mais aussi un certain nombre de villes de province. On peut également évoquer un certain nombre de tropismes régionalistes, et là, donc sans jeu de mots, on pense à la Corse, hein, où un vote nationaliste est aujourd'hui majoritaire sur l'île de Beauté. Et puis on a d'autres formes de fragmentation, qui sont des fragmentations aussi culturelles ou ethnoculturelles, avec un phénomène majeur que notre pays connaît maintenant depuis une quarantaine d'années, qui est celui d'une immigration relativement soutenue et qui aboutit au fait que nous sommes dans une société qui de facto est hétérogène sur le plan ethnoculturel. Donc tout ça constitue
les îles de l'archipel.
Est-ce que nous sommes vraiment plus hétérogène en 2019 que, par exemple, en 1919, il y a un siècle où, justement, au niveau des cultures, des langues, on parlait le provençal, on parlait le breton, on ne parlait pas que le français.
Alors, effectivement, c'est une bonne question. On rappelle dans l'ouvrage que au début du siècle, dans les régions que vous citez, en Bretagne, en Alsace ou en Corse par exemple, ou en Roussillon catalan, 70% des parents s'adressaient à leurs enfants dans la langue régionale. Donc on peut dire il y avait déjà une très forte diversité. Mais on s'est appuyé par exemple sur un indicateur qui est très intéressant, qui est celui des prénoms qui sont donnés aux enfants. Et donc on a eu une très grande stabilité et une très grande homogénéité des prénoms donné en France dans toutes les régions.
On va y revenir en détail dans quelques instants.
Plusieurs centaines d'années. Hein. Si on regarde uniquement le XXe siècle, puisque l'INSEE fournit un fichier où les prénoms qui sont donnés année par année sont répertoriés depuis 1900, on a grosso modo fonctionné en France de 1900 à 1960 avec un stock de 2000 prénoms Et aujourd'hui, on est au bas mot à 13 000 prénoms catholiques.
Oui, oui, on va y venir en détail, mais j'aimerais d'abord qu'on esquisse la trame de fond conceptuelle de votre livre. Vous faites de l'extinction du catholicisme à la fois comme principe structurant de la vie publique et comme pratique religieuse active chez les croyants le point de bascule de l'histoire récente de la France. Pourquoi donner à ce facteur une telle importance, Jérôme Fourquet?
Parce que il nous est apparu que la matrice catholique, comme on l'a appelé, a été une matrice qui était totalement structurante sur la longue durée, à la fois notre rapport au monde, de l'organisation de la société, alors à la fois pour les catholiques, hein, qui étaient très nombreux, mais aussi parce que la société française, quelque part, s'est structurée, quand on pense au clivage gauche-droite, quand on remonte les racines de tout cela, eh bien, la société française s'est structurée sur un duopole entre ce qu'on pourrait appeler le camp laïque et républicain versus la France catholique. Et donc c'est cet équilibre-là qui, a donné son armature à la société française depuis la Révolution française jusqu'aux années 60 ou 70.
Mais en même temps, la sécularisation est un phénomène très ancien, déjà analysé par les historiens, les sociologues, le désenchantement du monde, entre guillemets. Qu'est-ce qui se joue là de particulièrement nouveau et de révolutionnaire? Vous dites qu'il y a une cassure anthropologique. En quoi? Pourquoi?
Eh bien parce que effectivement, le phénomène de sécularisation et de déchristianisation n'est pas récent, mais on peut penser que nous sommes aujourd'hui en train d'assister, et je pèse mes mots, au stade terminal. Hein, c'est-à-dire qu'il reste encore des catholiques en France, mais je vous donne juste quelques chiffres. Au début des années 60, avant Vatican II, quand l'IFOP interrogeait les Français, on avait 35% de Français qui déclaraient aller à la messe tous les dimanches, voire davantage. Aujourd'hui, on est tombé à peine 5 ou 6%. Autre illustration de tout cela, le nombre de prêtres catholiques, le prêtre diocésain, en une vingtaine d'années, a été divisé par deux. On n'a plus que 11 000 prêtres aujourd'hui en France, des prêtres catholiques. Et au rythme de l'évolution de ce stock, on peut penser que d'ici 25 ans, si rien n'est fait, il n'y a plus de prêtres catholiques en France. Donc, on est sur une phase terminale. Et donc, on est en train de basculer vers autre chose. C'est pour ça que j'emploie dans le livre l'expression de basculement anthropologique, parce que le catholicisme, de manière consciente ou non, a structuré énormément de choses. Par exemple, notre rapport au corps, le fait de savoir si on va être enterré ou incinéré, on voit une tendance très forte au développement de l'incinération, sur ce qui se passe sur le rapport à la sexualité, à l'homosexualité, le rapport également sur la hiérarchie très ancienne entre l'homme et l'animal, hein, avec la montée des courants vegan, animalistes. Tout ça nous fait penser que nous sommes dans un basculement, puisque les jeunes générations sont aujourd'hui sur une vision du monde et une structure de pensée qui est assez éloigné de ce qu'on a connu jusqu'à il y a encore quelques années.
Et le mot-clé, en réalité, cette dislocation de la matrice catholique, c'est que ça déclenche une société plus individualiste, c'est ça que vous montrez?
Alors, effectivement, puisque un des ciments de cette société française, c'était ce catholicisme plus ou moins sécularisé et qui est en voie de dislocation terminale. Et donc, ce ciment s'étant effrité, les briques du mur se sont dispersées. Ouais. Voilà, ça marche beaucoup moins bien. Et il y a d'autres ciments qui ont aussi été mis à mal dans le sillage de ce déclin historique. On peut penser, par exemple, à ce qui s'est passé du côté du Parti communiste, hein, qui était un autre môle très important, structurant de la société française. Jusque dans les années 70, on est à 20-25% du corps électoral qui vote communiste, avec une contre-société qui a été très bien étudiée par des historiens, des chercheurs, le fameux communisme municipal. Tout ça existe encore, mais à l'état résiduel et ne structure plus en profondeur la société française.
Jérôme Fourquet, alors venons-en au prénom, parce que c'est un moment important du livre et de votre argumentation. Qu'est-ce qui se joue là dans le fait de choisir tel ou tel prénom quand on est parent et qu'on vient d'avoir un enfant? Expliquez-nous pourquoi c'est important.
Alors écoutez, je me suis appuyé sur des travaux de sociologues, hein, qui avaient déjà réfléchi à la question, alors pas forcément de manière statistique comme nous on a pu le faire, donc qui s'appellent Desplanques et Bernard, et qui disent que le choix d'un prénom doit permettre d'affirmer sa ressemblance avec ceux auxquels on s'identifie ou dont on souhaite se rapprocher, et dans le même temps de marquer ses distances avec ceux dont on souhaite se distinguer. Donc c'est un choix qui est évidemment éminemment personnel, hein, tout le monde, tout parent a connu ces affres-là ou ces bonheurs, hein, de choisir
de
un
nommer.
Prénom, de nommer. Donc il y a des choses qui se jouent qui sont du registre de la transmission. Est-ce qu'on va l'appeler du nom du grand-père ou de la grand-mère? Est-ce que on va choisir le cas d'un prénom régional, hein, on fait tout un développement dans le livre sur les prénoms bretons, oui, les prénoms corses.
Et là, justement, il y a un vrai changement. C'est-à-dire que, vous le dites, il y avait un stock de prénoms, et là, on voit arriver des prénoms basques, des prénoms régionaux, mais aussi des prénoms américains. Et vous pointez l'augmentation des prénoms arabo-musulmans. Vous dites que c'est un phénomène en plein essor. En quoi c'est différent d'appeler son fils Dylan? En quoi c'est différent ce phénomène-là?
Alors c'est pas forcément différent, c'est juste une autre illustration de la diversification massive. Hein, donc je reprends juste les chiffres. Des années 1900 jusqu'aux années 50-60, on tourne, on fonctionne avec 2000 prénoms. On a un stock, une banque de 2000 prénoms. Alors tout ça s'explique légalement, puisqu'il y a une très vieille loi qui date de Bonaparte, de 1803, qui définissait de manière très précise, qui codifiait les prénoms autorisés.
Maintenant, on a globalement tous les droits.
On peut les inventer.
On peut même les inventer. Oui, oui. Et les Français ne se sont pas gênés, puisque donc on a eu un premier assouplissement en 1966, avec non pas une loi, mais un décret ministériel qui permet d'assouplir tout ça, notamment pour prendre en compte des prénoms régionaux.
Et donc, alors, pour les prénoms que vous appelez arabo-musulmans, quel est le problème? Quel est l'enjeu? Pourquoi en faire une catégorie à part? En quoi est-ce différent de l'essor des prénoms basques? Je repose la question d'Alexandra, breton ou corse, expliquez-nous.
Alors, mais c'est une catégorie en soi, comme peuvent l'être les prénoms basques, bretons ou corse, comme peuvent l'être aussi les prénoms d'influence anglo-saxonne. Hein, on montre qu'il y a une très forte prévalence de ces prénoms-là dans certains milieux. Et puis, il y a ces prénoms issus des mondes arabo-musulmans. Alors, ça nous a intéressés à deux titres. D'une part, parce que ces prénoms sont très massivement donnés par les familles qui se rattachent à l'immigration. Hein, et donc, ça permet, en les dénombrant, d'avoir une histoire de cette immigration en France. Hein, donc, pour donner là encore deux chiffres, on est à moins de 1% de prénoms arabo-musulmans dans les années 60. On est, selon nos chiffres qui ont été calculés prudemment, à plus de 18% sur les dernières années. Et puis, autre élément qui est intéressant de notre point de vue, c'est que quand on regarde, par exemple, dans notre histoire, ce qui s'est passé sur d'autres vagues migratoires, je pense notamment aux Polonais dans le Pas-de-Calais, on voit, là aussi, dans les chiffres de l'INSEE, quand on va les regarder dans le détail, que ces familles polonaises, pendant une génération, ont donné des prénoms polonais à leurs enfants, et qu'en l'espace d'une génération, ce phénomène-là s'est éteint et qu'ils se sont fondus dans, j'allais dire, le catalogue commun des prénoms, ce qui manifestement n'est pas le cas pour une très grande majorité de la population issue de l'immigration.
Ne nous cachons pas derrière nos petits doigts, Jérôme Fourquet, il y a eu une polémique entre Éric Zemmour et Absatou Si, femme à laquelle il a dit « Votre prénom, Absatou, donc, est une insulte à la France ». Ce matin, dans le Figaro, il loue cet aspect-là de votre travail et de votre livre, en disant « Voilà, enfin, la science, en substance, vient confirmer l'importance politique du prénom ». Est-ce que vous n'entretenez pas dans ce livre et dans ces chapitres-là, vous ne cautionnez pas, même avec les outils du scientifique, un débat douteux dont, au fond, il n'y a pas grand-chose à dire?
Alors, je ne suis pas convaincu du tout que ce soit douteux comme débat. Je pense que pendant trop longtemps, on a mis tout ça sous le tapis.
Non, mais on vous a demandé si c'était pareil, arabo-musulman, corse ou breton. Vous dites en substance oui. Alors, où est le débat ces cas-là?
Non, j'ai dit que c'était une catégorie parmi d'autres, qui montre la très forte diversification. J'ai également dit que sur d'autres vagues migratoires, ancienne ou récente, on pourrait prendre par exemple l'immigration asiatique, on a très peu de traces de prénoms asiatiques. Hein, donc ces familles-là font le choix de donner des prénoms européens, si ce n'est français. Et donc, on peut très bien comprendre et légitimer qu'une famille souhaite donner des prénoms qui rappellent, qui soient un clin d'œil à leur pays d'origine, mais on constate qu'historiquement, les autres vagues migratoires n'ont pas fait ça.
Alors, qu'est-ce que vous en déduisez?
Alors, deux choses. Là, vous parliez d'Éric Zemmour, hein, qui revient sur les...
Ouais, vous remercie, ce matin, dans le Figaro.
Voilà. Donc, sur les prénoms, on a précisé dans le livre un certain nombre de choses. On a tout un diagnostic sur l'état du processus d'intégration de la population issue de l'immigration arabo-musulmane. On peut faire l'hypothèse que, au regard des chiffres qu'on donne sur les prénoms, on a un processus qui est beaucoup moins rapide et beaucoup plus difficile que pour d'autres vagues migratoires. En même temps, on constate également que toute une partie de ces populations, parce que c'est pas un tout englobant, a pris l'ascenseur social et est même aujourd'hui totalement intégré. Puisqu'on est sur les prénoms, je vais vous en citer quelques-uns, notamment celui de Ahmed Merabet, le policier qui a été abattu devant Charlie Hebdo, de Samir Baja, qui était militaire français, qui est mort en combattant les djihadistes au Mali. Et puis, quand on regarde la liste des soldats français qui sont morts en combattant les talibans en Afghanistan, on s'aperçoit qu'il y en a 1 sur 10, hein, donc c'est des proportions très importantes, qui sont tombés sous le drapeau français. Donc on peut, là aussi, mesurer que toute une partie de cette population-là, aujourd'hui, a fait son parcours d'intégration, mais que, pour une part conséquente de cette population-là, aujourd'hui, elle constitue une des îles ou plusieurs des îles de l'archipel français.
On va passer au standard où nous attendent les auditeurs de France Inter. Est-ce que Benjamin est là ?
Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue. Bonjour.
Merci. Donner un prénom exotique, entre guillemets, à son fils quand on est en France depuis la quatrième génération, n'est-ce pas aussi une assurance, ou sa fille, n'est-ce pas une assurance de ne jamais lui donner la possibilité de trouver un boulot dans une vraie entreprise ? Là, vous citez l'armée, c'est très bien, l'armée embauche tout le monde, mais si on s'appelle Dylan ou Oussama, je suis pas sûr qu'un employeur prenne un CV.
Merci Benjamin pour cette question à laquelle répond Jérôme Fourquet.
Alors c'est un point très intéressant puisque effectivement, nombreuses études ont montré, je pense notamment à une enquête qui avait été réalisée par l'Institut Montaigne, qu'il y a une discrimination de fait au prénom qui fonctionne de manière massive en France, qu'il s'agisse, votre auditeur le rappelait, des CV, hein, il y a eu des tests qui ont été faits, bien encore de l'accès au logement. Et ces familles sont pleinement conscientes de ces discriminations, et donc pour autant, on a un choix qui est toujours massif en faveur de ces prénoms. Alors, une des hypothèses pourrait être que, pour une partie de cette population, c'est quelque part un choix assumé, qui peut être aussi un choix militant, de, comme disait le grand sociologue Goffman, un retournement du stigmate, en disant, voilà, il y a une stigmatisation dont nous sommes victimes, et donc on affiche quand même ce type de prénom.
Jérôme Fourquet, cet archipel que vous décrivez, cette archipélisation, je vais y arriver, de la France, ça donne quoi en termes politiques ? Est-ce que ça achève le clivage gauche-droite ?
Alors effectivement, puisque on a travaillé par étapes progressives, donc par les soubassements tout d'abord qui ont été étudiés, religieux, anthropologiques, et puis on arrive le dernier étage de la fusée, si vous me permettez cette expression, sur la dimension électorale. Et donc bien évidemment, tout cela n'est pas sans conséquence avec ou sur le plan électoral. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé depuis 2017, mais on avait eu des signes avant-coureurs au moment du référendum sur Maastricht en 92, au moment d'un autre référendum en 2005. Bien évidemment, le clivage gauche-droite, il perdure encore, mais il n'est plus le clivage aujourd'hui dominant et structurant. Il y a un autre clivage qui s'est imposé. On l'a vu au deuxième tour de la présidentielle, et là je reprends ma casquette de sondeur, et il faut être prudent sur les intentions de vote, mais pour l'instant on semble s'acheminer vers de nouveau un affrontement entre, en tête, La République En Marche et le Rassemblement National comme force dominante de la vie politique française. Quelque part, on peut faire l'hypothèse que ce nouveau paysage électoral, ce n'est juste que la mise en conformité de la scène politique avec le nouveau paysage sociologique français.
Mais quel est ce clivage ? Le clivage des métropoles et des périphéries, vous dites, ça n'est pas satisfaisant. Est-ce que c'est le clivage des premiers de la classe, les premiers de cordée ? Et puis tout le reste, des gens. Comment vous le qualifiez, vous,
Alors, il est difficile à qualifier parce qu'il est multiple, mais si on voulait essayer de résumer, on pourrait dire que, et c'est assez schématique, je m'en excuse, on est sur une opposition entre les gagnants relativement ouverts et qui acceptent ou qui tolèrent la mondialisation sous toutes ses formes, et puis une catégorie qu'on pourrait appeler les perdants, hein, ou ceux qui souffrent ou qui sont victimes des effets de cette délocalisation, qui sont plutôt hostiles, voire carrément réfractaires.
C'est la lutte des classes, ça. On redécouvre la lutte des classes.
Eh bien, non, pas tout à fait, parce que la lutte des classes, elle s'articulait sur un affrontement sur le capital-travail. Là, on est autre chose, avec une variable qui sociologiquement devient déterminante et qui n'était pas le cas dans le cas de la lutte des classes, qui est celle du niveau culturel, qui est du niveau de diplôme. On le voit dans toutes nos enquêtes, en France, mais aussi quand vous regardez le vote pour le Brexit ou le vote pour Trump aux États-Unis versus Clinton, la variable du niveau éducatif devient centrale. Hein, et ça aussi, c'est une données majeures qui s'expliquent, autres mutations françaises sur lesquelles on est revenu, sur la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, ce qui est très bien, mais qui aboutit à la constitution d'une vaste catégorie de 15 à 20% de la population qui est diplômée du supérieur et qui est culturellement aujourd'hui assez distincte du reste de la population.
Jérôme Fourquet, pourquoi vous êtes-vous consacré aux îles qui forment l'archipel et pas au socle géologique, pour filer la métaphore, qui les a reliés?
Eh bien, parce que le socle, il a été beaucoup étudié depuis longtemps, et le processus, moi, qui m'a paru le plus spectaculaire, auquel on est confronté actuellement, c'est celui de la fragmentation. Et donc, c'est plutôt, je suis parti, si vous voulez, de la photographie qui me semble la plus objective, hein, c'est-à-dire un morcellement de fragmentation.
Est-ce que ce qui est le plus difficile aujourd'hui, ce n'est pas, sauf si ça n'existe plus, hein, ça je sais pas, de se demander ce que nous avons en commun encore? Est-ce que c'est pas ça le travail le plus difficile à faire?
Alors c'est le travail sans doute qui est difficile à faire, et c'est aussi le travail auquel, à mon avis, doivent s'atteler les politiques. Hein, et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, quand il prononce ses vœux aux Français le 31 décembre 2017, hein, donc pas les derniers, ceux d'avant, il avait indiqué qu'il souhaitait mettre l'année 2018 sous le signe de la cohésion nationale, et on voit... depuis lors, une volonté très ferme d'essayer de saisir tous les événements qui permettent de faire nation ou faire société. Je pense notamment aux obsèques du colonel Beltrame. Mmh. Je pense aussi à la liesse au moment de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football. On pourrait également citer la messe très... laïcisée et républicaine qui a accompagné les obsèques de Johnny Hallyday, auquel
il y a des moments encore où on est ensemble.
Essaye de faire société parce que on sent très bien qu'on est sur un processus de fragmentation multiple.
Le grand écrivain antillais Édouard Glissant a pensé l'archipel. Le concept d'archipel, c'est vraiment un point absolument central de son œuvre. Il définissait l'Europe, par exemple, comme un archipel de langues, de cultures, de régions, d'histoires, de pays, évidemment, de parcours individuels, de moments collectifs. Il n'avait pas une définition privative ou lugubre de l'archipel, mais au contraire, il y voyait une dimension positive et rayonnante. En quoi une France archipel, Jérôme Fourquet, est-elle nécessairement une catastrophe et pas une richesse?
Alors c'est pas forcément une catastrophe, ça c'est chacun y verra.
Non mais c'est une vraie question, hein, non, à lire votre livre.
Oui, alors
pas joyeux comme constat. Pourquoi est-ce catastrophique?
Eh bien, tout d'abord parce que on est en rupture par rapport à l'histoire de longue durée de la société française. On avait sur un modèle, je reviens sur le cas des prénoms, un modèle relativement homogène qui prévalait, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on peut avoir toute une partie de la population qui regrette ou qui déplore ce basculement. Autre élément, quand on parlait tout à l'heure de faire société ou de faire nation, c'est plus facile sur un pays continent que sur un archipel, hein, donc c'est une difficulté qu'il va falloir prendre en compte.
Non, mais est-ce que vous n'avez pas eu une définition trop étroite de l'archipel par rapport à ce qu'on peut faire de ce concept, à savoir un concept intimement politique et conquérant?
Bien, encore une fois, libre à chacun de se positionner vis-à-vis de ce constat qu'on a essayé de le faire le plus objectif et le plus factuel possible. Mais on constate que ces processus de division et de fragmentation nous donnent beaucoup de fils à retordre.
Ce sont des fils, peut-être qu'on peut les tresser de manière heureuse.
Et c'est tout, à mon avis, l'enjeu et la priorité des prochaines années pour le débat politique.
Allez, le débat est ouvert. Merci Jérôme Fourquet d'être venu à l'antenne de France Inter.